Bonjour, c'est bien ici la bibliothèque municipale?
Oui, monsieur, c'est ici.
Waouh, c'est beau, hein? C'est super bien décoré, c'est vraiment beau, ouais.
Est-ce que je peux vous aider?
Ah ben, vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, ben, je peux de ça à personne.
Pour ça, je dis jamais rien. C'est un vrai piège à con, cette histoire-là. En plus, je sais pas lire.
Bonjour à tous.
Bienvenue à vous.
Bienvenue dans votre émission Délivrez-vous. Excusez-moi, c'est seulement la deuxième, je suis pas encore habituée. Votre rendez-vous mensuel donc sur Principe Actif, en compagnie des bibliothécaires du sud de l'Eure. Aujourd'hui dans l'équipe, on retrouve
Pauline de Verneuil-sur-Avre,
Anne-Marie d'Anville, commune nouvelle de Ménil-sur-Iton,
Amélie de Breteuil,
et notre invitée, Martine Royer.
Sans oublier Sandrine de Bourthe. Et à la technique, nous avons...
Ah, il faut que je me présente aussi.
Oui, s'il te plaît.
Ah, bah pardon, c'est JC, hein, toujours fidèle au poste.
Donc nous sommes en septembre, vous avez pu le remarquer, et les vacances sont terminées. De toute façon, il faisait trop chaud. Les enfants ont repris l'école, et c'est tant mieux, enfin un peu de répit. Les activités en tout genre ont repris également, super, on retrouve des amis. Bref, vive la rentrée. Et c'est bien entendu le sujet que nous allons aborder à travers notre coup de cœur et notre invité. Donc Martine Royer, que certains d'entre vous reconnaîtront puisqu'il s'agit d'une institutrice ayant exercé à Breteuil et aujourd'hui à la retraite. Donc bonjour Martine.
Bonjour tout le monde.
Préparez vos silos et ouvrez bien grand vos oreilles. Nous allons commencer.
Le cancre. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime. Il dit non au professeur. Il est debout. On le questionne et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend et il efface tout, les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Jacques Prévert.
Bon, à partir de maintenant, moi j'avance avec ceux qui m'écoutent.
Alors maintenant, je vais enchaîner avec un petit extrait du Chagrin d'école de Daniel Pénac, un grand classique que vous avez certainement pu lire. J'annonce à Bernard que je songe à écrire un livre concernant l'école. Non pas l'école qui change dans la société qui change, mais au cœur de cet incessant bouleversement sur ce qui ne change pas justement, sur une permanence dont je n'entends jamais parler, la douleur partagée du cancre, des parents, et des professeurs, l'interaction de ces chagrins d'école. Un livre de plus sur l'école, alors ? Tu trouves qu'il n'y en a pas assez ? Pas sur l'école, non, un livre sur le cancre, sur la douleur de ne pas comprendre et ses dégâts collatéraux. Tu en as bavé tant que ça ? Peux-tu me dire autre chose sur le cancre que j'étais ? Tu te plaignais de ne pas avoir de mémoire. Les leçons que je te faisais apprendre le soir s'évaporaient dans la nuit. Le lendemain matin, tu avais tout oublié. Le fait est, je n'imprimais pas, comme disent les jeunes gens d'aujourd'hui. Je ne captais ni n'imprimais. Les mots les plus simples perdaient leur substance dès qu'on me demandait de les envisager comme objets de connaissance. Si je devais apprendre une leçon sur le massif du Jura, par exemple, ce petit mot de deux syllabes se décomposait aussitôt jusqu'à perdre tout rapport avec la Franche-Comté, l'Ain, l'horlogerie, le massif alpin ou la simple montagne. Il ne représentait plus rien. Jura, me disais-je. Jura ? Jura. Et je répétais le mot, inlassablement, comme un enfant qui n'en finit pas de mâcher et ne pas avaler, répéter et ne pas assimiler, jusqu'à la totale décomposition du goût et du sens. Mâcher, répéter, jura, 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 jura. Jura, 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 jusqu'à ce que le mot devienne une masse sonore indéfinie, sans le plus petit reliquat de sens, un bruit pâteux d'ivrogne dans une cervelle spongieuse. C'est ainsi qu'on s'endort sur une leçon de géographie. Et plus tard, rebelote avec les langues étrangères. Je ne pouvais pas m'ôter l'idée que s'il disait des choses trop intelligentes pour moi. Ce qui te dispensait d'apprendre tes listes de vocabulaire. les mots d'anglais étaient aussi volatiles que des noms propres. Tu te racontais des histoires, en somme. Oui, c'est le propre des cancres. Ils se racontent en boucle l'histoire de leur cancrerie. Je suis nulle, je n'y arriverai jamais. Même pas la peine d'essayer, c'est foutu d'avance. Je vous l'avais bien dit, l'école n'est pas faite pour moi. L'école leur paraît un club très fermé, dont ils s'interdisent l'entrée, avec l'aide de quelques professeurs parfois.
Extrait de Chagrin d'école de Daniel Penac, qu'on peut bien entendu retrouver dans le réseau des bibliothèques du sud du département, et notamment à Breteuil, si j'ai bien tout suivi.
Oui, c'est tout à fait ça.
Vous venez d'écouter Earth, Wind and Fire de September. On va passer avec Sandrine qui va nous lire quelques brèves de bulletins scolaires.
Oh, c'est dingue, t'aimes pas lire. T'as pas lu Proust? Oh là là, je te crois pas.
Donc, brèves de bulletins scolaires. Donc, voici quelques témoignages d'appréciation de professeurs sur les bulletins scolaires que vous avez tous eus ou pas. Je vois que vous faites des efforts pour apprendre certaines citations, mais citer Aimé Jacquet, le sport est un dépassement de soi. Quand le sujet est la philosophie des Lumières, je ne croyais pas ça possible. Élève passif en classe, ne participant jamais, mais ses notes montrent qu'il suit, alors je ne peux rien dire. David s'est réveillé ce trimestre, c'est bien. Attention à ne pas sombrer à nouveau dans un cycle de sommeil profond. Votre incompréhension généralisée dépasse mes compétences d'enseignant. J'aurais aimé vous mettre la moyenne ce trimestre, mais on ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie.
Jérôme, qu'est-ce que je viens de dire ?
Maintenant, Anne-Marie, qui va nous parler. Donc, Anne-Marie, à toi, d'Envillé.
Je crois qu'on va parler de guide de survie pour des enfants vivant avec un TDAH, pardon. Et on va déjà définir ce qu'est le TDAH.
Oui, alors cela veut dire trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc effectivement, j'ai apporté aujourd'hui ce guide de survie pour les enfants vivant avec un TDAH de John F. Taylor. Donc c'est l'auteur est psychologue, conférencier aux États-Unis, et il a conçu ce guide pour les enfants à partir de 7 ans, mais aussi pour leurs familles, les enseignants, les intervenants, les médecins. Donc en le feuilletant, j'ai trouvé des pages de mini-tests qui sont aussi téléchargeables. Cet ouvrage est découpé en chapitres où on peut piocher par thématique comme la vie de famille, réussir à l'école, se faire des amis, gérer ses émotions. Même des rubriques comme bien s'alimenter, trouver de l'aide. Parce qu'une fois le diagnostic posé, il est plus facile de comprendre et d'accepter les particularités, de frapper aux bonnes portes et d'aider ces enfants à trouver leur place dans la société grâce à des aménagements, des aides matérielles et humaines. Certains s'épanouissent dans l'apprentissage d'un métier, d'autres deviennent médecins, par exemple. Donc, il est publié aux éditions Midi 30, qui est un éditeur canadien.
Un petit extrait, non, pas forcément, non, comme je te vois feuilleter l'ouvrage, c'est le moment ou jamais. Hein.
Alors c'est vrai que la rédaction de cet ouvrage fait qu'il s'adresse au lecteur directement. Voilà, à la suite du diagnostic de TDAH, si tu reçois un diagnostic, des professionnels vont s'entretenir avec toi et avec les membres de ta famille. Ils vont t'aider à comprendre le TDAH et ils vont suggérer aux membres de ta famille toutes sortes de manières de t'aider et de te soutenir. Il est possible que tu rencontres un thérapeute, il s'agira probablement d'un psychologue, d'un psychiatre ou d'un autre professionnel. Ces personnes ont reçu un entraînement spécial pour aider leurs clients à parler de leurs émotions. Ils peuvent écouter ce que tu as à dire et trouver des moyens pour t'aider à mieux vivre avec tes émotions plus difficiles. Voilà.
Mais qu'est-ce qu'on va faire de vous ?
Ça, c'est un standard qu'ils doivent entendre d'ailleurs, hein, cette petite phrase « Mais qu'est-ce qu'on va faire de vous ?»
Tout à fait, tout à fait. Ces enfants-là se disent, comme Daniel Pénac, « je suis trop nul, j'y arriverai jamais. » Voilà.
C'est un livre qui s'adresse plus aux enfants ou aux parents ?
Tout à fait, oui. Oui.
Aux enfants ?
Oui, il a été écrit pour les enfants, c'est une source d'information aussi pour les parents, les enseignants et les professionnels qui encadrent. Parce qu'il donne vraiment, il fait bien le tour de la question.
Je voyais Martine Royer, là vous allez intervenir un peu plus tard dans notre déroulé, mais vous aviez déjà des réactions face à ce que nous disait Anne-Marie.
On ne dit jamais à un enfant qu'il est nul, au contraire. Il faut connaître.
C'est l'enfant souvent qui dit je suis trop nul.
Il faut détecter ses compétences et essayer de le valoriser pour qu'il réussisse à son niveau, mais ne jamais le dévaloriser. Moi, je pense.
Tout à fait, on aura l'occasion d'y revenir. Justement, je rappelle, Martine Royer, vous êtes institutrice de Breteuil. Vous étiez, voilà, mais j'allais dire à la retraite. On sent l'institutrice d'ailleurs, hein. je conjugue mal un verbe et on sent l'institutrice qui me répond. Vous m'enlèverez pas trop de points cette fois.
Tout va bien.
Tout va bien, bon, j'espère toujours, je vise toujours la gommette verte, hein, on va pas se mentir, je vise toujours la gommette verte. Anne-Marie, nous demandions en début d'émission si nous pouvions tout aborder, parce que tu étais venue aussi avec un DVD, Les Héritiers. Oh, on va se faire plaisir, je pense qu'on peut en parler. Hein.
Bon, alors
allons-y. Allons-y.
Alors là, c'est un autre cas de figure. Donc, c'est d'après une histoire vraie. C'est une au lycée Léon Blum de Créteil, une classe de seconde qui n'a pas un très bon niveau. Les élèves sont ingérables, donc niveau général, voilà, un peu faible. Et Madame Guéguen, donc incarnée par Ariane Ascaride. Donc, qui est professeur d'histoire, va décider de les inscrire, enfin de les faire participer à un concours national de la résistance et de la déportation. Et alors là, la réaction des élèves, au début, elle est toute seule dans la salle, et on les voit arriver petit à petit. Et elle va leur faire lire le journal d'Anne Frank, etc. Et ils vont. Voilà, il suffit de quelques-uns pour l'effet de groupe. Ils vont relever le défi et leur vie en sera bouleversée à tout jamais. Voilà, je vous dis pas la fin, mais ça va vraiment être une réussite.
Et ça, c'est pour quel public ?
Alors moi, je dirais que même au collège, je pense qu'on peut leur montrer ce film. C'est vraiment une expérience très très intéressante, très enrichissante.
D'accord.
Tout l'intérêt, en fait, est de voir que l'importance du professeur qu'on a en face de soi, qui arrive à nous motiver et à nous intéresser à quelque chose, à croire aux capacités des élèves, et qui, du coup, va permettre de vraiment de les intéresser et de changer tous les a priori sur cette classe, parce que je crois qu'ils sont en zone ZEP, en plus, donc ils sont pas vraiment... Enfin, ils sont, on va dire, dévalorisés au niveau de leur secteur géographique et du classement de l'établissement. Et du coup, c'est super intéressant.
J'imagine que ce DVD peut être trouvé à la bibliothèque de Danville.
Non, il est également à Breteuil.
Et également à Breteuil. Ouais. Et ben, c'est parfait. Le tour est fait. Donc, rapprochez-vous du rayonnage Les Héritiers. Et donc là, on retrouve Anne-Marie et Amélie en binôme sur une question d'illettrisme, je crois.
Oui, c'est tout à fait ça. La semaine dernière, on a participé avec Anne-Marie à une journée de lutte contre l'illettrisme organisée par le département. Est-ce qu'Anne-Marie, tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, en effet, la semaine du 8 au 15 septembre s'est inscrite dans le cadre des journées nationales d'action contre l'illettrisme. Et c'était la 5e édition cette année.
On a pu voir notamment, parce qu'on parle toujours de chiffres, c'est quand même la chose qui nous aide à nous projeter et à nous rendre compte un peu des difficultés. On a vu des chiffres très impressionnants. En Normandie, on note que 8% des 16-65 ans seraient en situation d'illettrisme. Et notre région est quand même avant-dernière sur le plan national.
Alors moi, je voulais revenir juste une petite seconde sur la différence entre l'illettrisme et l'analphabétisme. L'illettrisme, c'est un peu différent quand même.
Oui, en fait, l'illettrisme, on parle d'illettrisme à partir du moment où il y a quand même des bases qui ont été posées au moment de la lecture, de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, mais des bases qui ne sont pas consolidées et qui posent des gros soucis dans les tâches quotidiennes pour remplir un dossier, etc. Et l'analphabétisme, c'est vraiment l'absence, ne pas du coup tout savoir lire ni écrire.
Jamais avoir appris,
voilà, c'est ça.
Excusez-moi de vous avoir coupé,
pas
mais ça
soucis.
Me paraissait essentiel
oui,
de revenir
de
sur cette notion-là.
Un petit point et préciser les choses, oui.
Donc l'illettrisme était donc la grande cause nationale en 2013 et l'État a mis en place des actions pour garantir l'accès à tous les citoyens aux compétences de base. Donc cela passe par la maîtrise de la langue française, donner l'envie et le goût de lire, et c'est là que les bibliothèques et les centres de loisirs notamment ont leur rôle à jouer en agissant en amont pour multiplier les occasions de rencontrer les livres et la lecture.
On a, quand on reste encore dans les chiffres, justement, je rebondis un petit peu, il y a la journée qui est obligatoire, la journée de défense et de citoyenneté, qui est obligatoire pour tous les jeunes, pour garçons et filles, et elle s'effectue à 17 ans. Et c'est un très bon moyen, justement, de voir un petit peu toutes les difficultés qui sont rencontrées, puisqu'il y a un test de français qui est proposé. Et on note quand même qu'il y a à peu près 5% de ces jeunes qui sont en difficulté de lecture, et donc qui sont quand même scolarisés.
Oui, en 2017, cela représentait un jeune sur 10 dont les acquis sont fragiles. Et donc on retrouve ces jeunes, les jeunes de 16 à 25 ans dans les missions locales en insertion professionnelle.
missions locales qui ont du coup un rôle très important à jouer pour les aiguiller et les, éventuellement les rediriger pour aider à compléter toutes les lacunes. On retrouve d'ailleurs des bassins de vie dans lesquels les populations sont les plus touchées. On a la région nord, les zones industrielles et les zones rurales. En fait, on rentre dans la vie active sans avoir validé ses acquis. On arrête ses études pour travailler à l'usine. Ou alors, on reprend les exploitations agricoles de père en fils, sans même se poser la question d'un autre avenir possible. On se dit que notre voie est toute tracée. Et du coup, on note que 50% des personnes en situation d'illettrisme travaillent.
Tout à fait. Alors, hasard de l'actualité, ce soir, c'est le sujet d'un téléfilm sur France 3, L'illettré, de Jean-Pierre Améris. Donc, c'est l'adaptation d'un roman, L'illettré, de Cécile Ladjali. Donc, c'est un jeune homme, un trentenaire, qui travaille dans une usine. Et un jour, une nouvelle machine arrive. Il sera incapable de lire les consignes et va se mettre en danger. Alors, je ne vous raconte pas la suite.
Non, faut qu'on le découvre.
Je fais du coup un petit lien avec le guide de survie que tu nous as présenté juste avant, parce qu'on a rencontré une orthophoniste lors de cette journée qui nous a parlé notamment de la dyslexie, car 20% des personnes souffrant d'illettrisme sont dyslexiques. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est la dyslexie, en quelques mots ?
Oui, la dyslexie est un trouble neurodéveloppemental, donc c'est un trouble de l'identification des mots. En fait, c'est une connexion dans le cerveau qui ne se fait pas. Les enfants diagnostiqués ont souvent un sentiment de dévalorisation, ont des difficultés à communiquer, à s'exprimer, à échanger. Ce sont des enfants intelligents et sensibles. Et grâce à la prise en charge orthophonique qui peut être mise en place précocement, des mécanismes de compensation de leur mémoire verbale à court terme sont possibles. On est NAIT dyslexique et c'est bien compliqué de dépister cette dyslexie ou dyscalculie ou dysorthographie avant l'entrée dans la lecture, c'est-à-dire plutôt le CE1 vers 7 ans.
En fait, on laisse la possibilité donc aux enfants au CP d'apprendre, au CE1 d'acquérir, de consolider leurs acquis. Et quand on voit en fin de CE1 qu'il persiste de grosses difficultés au niveau de la lecture, on peut commencer à orienter les parents et à se poser la question d'une éventuelle dyslexie ou autre trouble. Pendant cette journée, j'ai découvert un nouveau mot. L'illectronisme. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais moi, je ne l'avais encore jamais entendu.
Absolument pas.
Alors, du coup, Anne-Marie, tu peux nous l'expliquer ?
Alors, c'est un mot bien compliqué. Moi, je l'avais relevé avant d'aller à cette conférence dans un magazine. Et pour faire simple, c'est l'illettrisme numérique. Ce qu'on appelle, enfin, dans notre jargon, la fracture numérique. Et 15%, là, pour donner des chiffres, 15% de la population est concernée.
Oui, et pas forcément que des personnes âgées qui n'ont pas connu l'ordinateur. Il y a aussi des personnes, des jeunes ou même des adultes qui se retrouvent complètement perdus face à toutes ces démarches dématérialisées qu'on doit faire aujourd'hui. Et du coup, il faut pas hésiter, à vous rapprocher de. Il y a plein de structures qui peuvent vous aider. Pôle emploi peut mettre en place des ateliers. Nous, en médiathèque, on peut essayer de vous aider dans vos démarches, au maximum de nos capacités, bien entendu. Voilà, faut pas hésiter à se renseigner. Il y a plein de choses possibles et surtout, il ne faut pas avoir honte. C'est parfois difficile d'en parler, mais il faut vraiment pas hésiter. Vous n'êtes pas seul. Et du coup, Anne-Marie, tu avais relevé un petit numéro vert. Je pense qu'il est important quand même de le donner.
Oui, alors c'est un numéro totalement service et appel gratuit au 0800 11 10 35.
De toute façon, quand on est 15%, il n'y a plus de honte. Hein.
Il n'y a plus de honte, c'est ça.
Passer 10%, il n'y a plus à avoir.
Voilà. C'est une grosse majorité. Et donc, pour conclure cette petite partie sur l'illettrisme, comme le dit si bien Rascal, la bibliothèque, c'est pour tous. N'ayez pas honte, nos portes sont ouvertes.
Nous partons en musique avec un cours de mathématiques, je crois.
C'est ça.
Non, on va les mettre 2-1.
Allez, c'est ma mère, soit c'est ma mère.
Mais c'est 1-2, mais c'est vous.
I2S, ABA, ex-époque, Montreuil-sous-Bois, 1-1. Si aujourd'hui je prends le micro, c'est pas pour faire des rimes hardcore, mais pour vous expliquer le théorème de Pythagore. Mais d'abord, faut voir si le triangle est bien rectangle. Si c'est pas le cas et que tu l'utilises, je te jure, je t'étrangle. Ensuite, tu dois repérer l'hypoténuse, c'est le plus grand côté, mais ça tu le sais depuis des lustres. C'est le côté du triangle en face de l'angle droit. Je précise pour ceux qui se demandent encore, je parle de quoi. Et le théorème nous dit que l'hypoténuse au carré est égale à la somme du carré des deux autres côtés. La somme, c'est l'addition. Pour ceux qui ont déjà oublié, pour ceux qui en sixième en cours de maths ont trop roupillé, mettre un nombre au carré, ça t'en est capable. C'est un nombre qu'on multiplie par lui-même, pas par deux. Et là, on doit remplacer les deux côtés qu'on connaît par leur valeur indiquée dans l'énoncé ou une figure bien codée. 5 au carré ou 5 exposant 2, c'est kiff, kiff, ça fait 25. N'en faut pas que tu me dises 10. Oui, oui, je rappe, c'est réel, y a rien de fictif. Mais réviste, contente pas, c'est quelques rimes riches et 12 au carré, comment on calcule ça en maths? 12 fois 10, 12 fois 2, t'additionnes, ça donne 144. Ça te rappelle rien, la distributivité, ça te permet de faire des calculs durs sans difficulté. D'ailleurs, trouver ça dur, à ce qu'il paraît. Maintenant, t'as plus qu'à taper racine carrée sur ta calculette. Là, je crois que j'ai tout dit. N'oublie pas l'unité de mesure, ne sois pas étourdi. Collège d'Oramar, La Courtie, Henri Barbus, Collège Jean Vigo, Orgemont. Et on n'oublie pas, Collège Jean Moulin, Montreuil-sous-Bois.
Vous avez écouté le théorème de Pythagore de Issaba. Et on repart avec Sandrine de Bourthe pour quelques délicieux mots d'excuses.
Non.
Après les bulletins scolaires, les brefs de bulletins scolaires, nous allons retrouver les nouveaux mots d'excuses de Patrice Romain. Promotion à ne pas manquer sous aucun prétexte. Madame, veuillez excuser l'absence de Théo la semaine dernière, mais si vous connaissiez le prix de la montagne hors période scolaire, et si vous pouviez le faire, vous le feriez. Je vous remercie de votre indulgence. C'est bien plus beau que lorsque c'est inutile. Monsieur, est-ce que vous pouvez me dire à quoi ça sert que Kevin il apprend sa leçon si vous ne l'interrogez pas ? Économe. Vous me demandez encore un mot ? Mais qui c'est qui paye l'encre et le papier ? C'est vous peut-être ? Alors, vous faites moins le malin maintenant. Merci et sans rancune. Madame, vous avez dit à Mélanie qu'elle devait être peut-être consultée un ophtalmologiste. Est-ce que nous vous conseillons d'aller voir un orthophoniste au vu des fautes d'orthographe qui émaillent des photocopies que vous distribuez à vos élèves ? Je vous remercie donc de bien vouloir nous laisser jouer notre rôle de parent auprès de notre fille, cordialement. Madame, vous voulez que j'achète la photo de classe de ma fille ? Non, mais vous avez vu la tête des autres ? Alors, c'est non. Cordialement.
C'est toujours cordialement quand même.
Cordialement quand même. Ils sont polis. Monsieur, c'est toujours pareil. Mon fils est dans tous les coups. Il n'est pas méchant pour un sou, mais il se laisse entraîner par les autres. À mon avis, la maîtresse doit quand même lui en vouloir. Vous ne croyez pas qu'elle exagère un peu sur les faits ? Ce n'est qu'un enfant après tout. Merci de lui pardonner. PS, avec toutes mes excuses à la maîtresse. Et un petit dernier. Madame, excusez le retard à Léo, c'est moi qui lui ai interdit de mettre son réveil. Parce que ça nous réveille. Merci et bonne journée.
Flûte de flûte et ras la casquette. C'est comme ça, il fallait pas me chercher.
Alors, du coup, après ces petits mots délicieux qui nous ont bien fait rire de notre côté aussi, on va interviewer notre super invitée du jour, donc Martine Royer, professeure ancienne institutrice à la retraite, qui a exercé combien d'années sur Breteuil déjà ?
Alors à Breteuil, j'ai fait 26 ans. Donc j'ai eu l'occasion de voir plusieurs générations, au moins
d'accord.
Deux.
Et bah du coup sur ces plusieurs générations, enfin à peu près deux générations si on compte bien, est-ce que vous avez préféré enseigner à l'une plutôt qu'à l'autre ?
Pas de différence. Bon, début de carrière c'était disons, peut-être plus facile et en fin de carrière peut-être plus difficile, mais étant donné les situations familiales de certains enfants, situations sociales, c'est d'abord très difficile pour eux d'avoir certaines concentrations, certaines attentions en classe. Donc l'enseignant doit s'adapter. Donc je n'ai pas de préférence entre le début et la fin parce que les enfants sont des enfants.
Vous évoquiez une différence, notamment sociale. C'est lié à une réelle évolution des publics accueillis dans l'école ou peut-être à un autre regard de l'expérience de l'enseignante ou les deux peut-être combinés?
Je ne pense pas. C'est une réelle. C'est la réalité. Niveau social, chômage, nous sommes dans un. Le sud de l'heure est défavorisé.
Et ça, c'est quelque chose qui se ressent aussi dans l'école auprès des
Absolument.
Enfants qui, eux, vivent des situations mais familiales,
vivent quotidien...
mais ils vivent une vie d'enfant quand même.
Oui, mais le quotidien dans la famille n'est pas spécialement facile pour eux.
Et du coup, vous avez dit qu'il fallait s'adapter. Est-ce que vous avez, vous, mis en place des petites stratégies pour réussir à vous adapter, à les intéresser? Des petites astuces qui pourraient servir aux enseignants d'aujourd'hui aussi?
Oui, enfin, je pense que les enseignants d'aujourd'hui savent le faire également. Mais il faut utiliser toutes les compétences des enfants, notamment, entre autres, entre les disciplines dites classiques. Il faut faire beaucoup de sport, beaucoup d'activités extrascolaires pour intéresser les enfants, justement, et pour qu'ils viennent à l'école avec le sourire et qu'ils aiment l'école. Et après, tout passe.
Ouais, donc
même
en fait,
le français,
réussir,
même la lecture. Même le...
Comme dans le DVD, réussir à
Absolument,
utiliser
les
hériter, des autres compétences
voilà.
pour...
contourner l'obstacle et voilà. on arrive à ses fins.
D'accord.
Et vous aviez des classes de combien d'élèves? Parce qu'aujourd'hui, elles sont...
CM2, 28, 30.
Oui, déjà.
Monteuil, oui.
D'accord.
Oui.
Donc l'effectif ne rentre pas, on ne peut pas dire que ce soit un critère de plus ou moins de difficulté.
Si les classes à 12 élèves, c'est très bien.
Oui.
Pour un apprentissage de la lecture, CPC1, c'est très bien. C'est mieux.
Justement, on évoque cette question de lecture à laquelle nous sommes particulièrement sensibles. Hein. Vous êtes entouré du réseau des bibliothèques du sud du département. Donc forcément, cette question de lecture, nous y sommes particulièrement sensibles. Ça fait partie de... Alors bien entendu, il y a les cours de français qui sont, j'imagine, répartis en fonction des programmes scolaires, avec les mathématiques, la science, enfin voilà, tout un tas de choses. Mais est-ce que la lecture a une place particulière dans l'enseignement et particulièrement dans l'enseignement primaire?
Dans l'enseignement primaire, c'est la base de tout. Oui. Et justement, pour intéresser les enfants, disons, moyen lecteur, lecteur moyen, limite, nous avions une petite stratégie, comme vous dites. Entre la maternelle et nos CM2, nous faisions... Deux CM2 partaient en classe de maternelle lire un petit livre à des tout-petits. Là, c'était extraordinaire. Un bon lecteur, un lecteur moyen, et là, il revenait enchanté.
Ouais. Un bon moment d'échange.
Un bon moment d'échange.
Puis, entre enfants, sans le regard de l'adulte.
Donc, c'était une astuce aussi pour la lecture.
Et puis, dans ce que vous dites là, il y a une notion de valorisation. On l'évoquait tout à l'heure à travers ce que nous disait Anne-Marie sur les TDAH, ainsi que sur les dyslexies, enfin les 10 de manière générale, qu'il y avait une sensation de dévalorisation de l'élève. Enfin, on l'a abordé plusieurs fois, cette notion de dévalorisation, à travers cette stratégie, comme vous l'expliquez. Il y a vraiment cette notion de valorisation des compétences qui, j'imagine, est essentielle.
Mais qui est importante. Parce que chaque enseignant doit justement mettre en valeur ses enfants en difficulté.
Ce qui est un peu la base, c'est si je me sens bien, a priori, je suis prêt pour apprendre. Si je me sens pas bien dans mon rôle d'élève, ça va être plus difficile, forcément.
Exactement.
Alors, sans tirer à boulet rouge sur l'éducation nationale, n'y aurait-il pas moyen d'évaluer ces enfants différemment, c'est-à-dire les interroger plutôt à l'oral quand ils sont en difficulté à l'écrit, ce qui fait qu'ils ne seraient pas pénalisés sur le fond?
Oui.
Mais sur la forme, enfin, on ne va pas leur mettre zéro parce qu'ils ont fait, ils auront fait trop de fautes d'orthographe, mais ils auront appris leur leçon et ils sauront la restituer.
Mais il y a différents modes d'évaluation, effectivement.
Puis maintenant, il existe pas mal de plans d'aide individualisés. Enfin, je
Absolument.
Sais que ça porte un autre nom aujourd'hui, je n'ai pas le nouveau terme, mais qui prend du coup en compte les difficultés des élèves et qui essaie de trouver des
des biais pour soulager leurs difficultés et qu'ils ne soient pas ralentis par rapport au reste du rythme de la classe.
Il y a également des outils qui sont mis à disposition des enfants dyslexiques, ordinateurs particuliers, des règles particulières, pour les aider justement à surmonter leurs difficultés.
Et une AVS en complément.
Ce sont des auxiliaires de vie dans les classes.
C'est-à-dire une personne qui vient aider l'enfant en difficulté.
Alors c'est de plus en plus difficile au niveau de la MDPH, parce que ce sont aux parents de demander ces AVS. Oui. Et c'est très très difficile, de plus en plus difficile.
Il y a toujours un manque de moyens, malheureusement.
Mais alors, sans remettre en question les méthodes de l'éducation nationale,
ne tapons pas sur l'éducation nationale.
Disons que c'est vrai que l'école n'est pas adaptée finalement à ce que ces enfants peuvent restituer par rapport à leur âge. Et donc, n'y aurait-il pas moyen d'alléger les cours, parce qu'on sait que la concentration des enfants pendant 45 minutes, voilà, ça leur pompe un peu, enfin beaucoup leur énergie, mais voilà, pendant 45 minutes dans une heure ils sont opérationnels, mais le dernier quart d'heure, s'ils sont placés à côté d'une vitre, voilà, ils vont aller regarder ce qui se passe ailleurs. Et ce n'est pas forcément le cas généralisé seulement pour les enfants dyslexiques, mais ça pourrait être utile à d'autres enfants de ne faire des cours que de trois quarts d'heure de français, et après on passe à autre chose. Alors,
mais je dirais une demi-heure, moi, parce que trois quarts d'heure, c'est trop.
Ça dépend de l'âge aussi.
Oui, tout dépend de là. Moi, je parle d'enfants de 10-11 ans.
C'est fait dans certains pays, dans les pays nordiques. En Islande, par exemple, je sais qu'ils ont des plages d'apprentissage assez courtes, avec beaucoup de temps de récréation, pour permettre une plus grande attention.
Faut-il encore être synchro sur la même demi-heure, hein? Parce que ça, c'est peut-être pas gagné non plus.
Bon,
je voulais revenir, moi, c'est parce que là on aborde pas mal de choses qui sont tout autant essentielles, mais c'est moi, globalement, ça me fait penser au sens de l'école, finalement, parce qu'on dit oui, à apprendre à lire, à compter et compagnie, mais je sous-entends qu'il y a des choses bien au-delà d'apprentissage pur. Quel a été pour vous, Martine, et là, c'est tout à fait personnel, hein, le sens de l'école, et en particulier à Breteuil, en dehors peut-être de l'apprentissage standard de « on doit savoir lire et compter ».
Le sens de l'école, c'est simplement leur donner les outils pour réussir leur vie plus tard.
N'est pas forcément sur d'apprentissage pur, quoi. C'est les outils qui peuvent être très larges. J'imagine que ça intègre peut-être la vie en collectivité, l'interaction entre les individus.
Donc pour des anecdotes, je partais en classe verte, classe de neige, tous les deux ans, pendant trois semaines. Et on emmenait les enfants, une trentaine d'enfants, en dehors de chez eux. Et là, c'était une expérience très, très riche. La vie en collectivité, les rapports entre maîtresses, enfants, animateurs, c'était vraiment d'une richesse. Et je revois toujours mes anciens élèves. Et cette expérience de vie a été déterminante, extraordinaire pour eux. Et c'était vraiment une autre façon de voir l'école.
Il est vrai qu'en CM2, c'est une des premières fois où les enfants quittent le foyer familial. Donc,
tout à fait.
De voir autre chose, ça permet d'avancer.
Mm-hmm. Exact.
Et du coup, vous disiez que vous aviez parfois contact avec vos anciens élèves. Est-ce que vous savez ce qu'ils vous disent aujourd'hui, ce qu'ils ont pensé de vous en tant qu'institutrice, ou pas du tout?
Oui, je pense qu'ils sont honnêtes, ils ont de bons souvenirs.
Bon, c'est bien.
Ils viennent vous voir, c'est le principal.
Et je vais les voir. J'ai des anciens élèves en Turquie. Lorsque je faisais un voyage, j'ai rencontré des élèves en Turquie, à La Réunion et autres. J'ai toujours de très bons rapports.
Et ça fait, peut-être je pense que ça tous, fait plaisir dans une carrière de se dire qu'on a laissé des traces positives de son passage en tant qu'enseignant. Donc, je ne sais pas, les filles, vous avez d'autres questions peut-être?
Moi, justement, je me demandais conseilleriez-vous aux nouveaux enseignants, ceux qui démarrent?
Ah oui, alors les jeunes enseignants doivent avoir beaucoup de patience, aimer beaucoup les enfants, et puis s'adapter à leur nouveau public.
D'accord.
C'est-à-dire chercher à chaque fois le meilleur des enfants.
Au-delà du fait de transmettre...
Pour réveiller leur curiosité, et non pas avoir un enseignement magistral. Au contraire, il faut partir des enfants.
D'accord. Que ce soit ludique au maximum. D'accord.
Avant même de transmettre, de toute façon, je pense que c'est un métier passion. On ne fait pas ça si on n'aime pas les enfants et si on n'est pas passionné. Sinon, on lâche.
Il faut être motivé, déjà.
Oui, c'est ça.
Ne pas compter son temps.
Pour conclure, tout à l'heure, Sandrine nous lisait quelques mots d'excuses. En avez-vous reçu vous-même des tous aussi drôles? Et puis, oui. Je ne sais pas s'il y en a un qui vous aurait marqué, histoire de terminer sur une note un peu légère. Le type d'excuses ou le type de petits mots particuliers que vous auriez pu recevoir.
J'ai lu ce livre et on a vraiment le catalogue de toutes les possibilités de parents. Je n'en dirai pas plus.
J'imagine, c'est juste la conclusion, donc on va pas forcément développer, mais là on a beaucoup parlé de l'élève, on a beaucoup parlé du coup de l'enseignant et de l'enseignante, en particulier avec vous Martine. J'imagine que le lien avec les parents est essentiel, parce que ça reste aussi un éducateur des enfants primordial.
C'est essentiel parce que on va dans le même sens avec les enfants. Maintenant, il faut une collaboration effective avec l'enseignant.
Ce qui paraît assez évident.
Ce qui paraît évident pour moi.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup à vous, Martine Royer. Ah non, vous vouliez dire un truc. Ben oui, vous aviez un livre, vous étiez venu avec tout. Ah ben allez-y,
donc,
allez-y.
Je vais rebondir sur les romans, sur la lecture. Avec une année avec mes élèves, nous avions travaillé sur le roman policier. Et en revenant de classe de neige, ils ont écrit un roman policier que nous avons édité. Imprimé, et à la fin de l'année, chaque enfant est parti avec son roman. Et ça aussi, c'est extraordinaire parce qu'ils ont chacun la preuve. Alors, c'était Mystère à Chamonix, CE2, CM1 et le CM2. Et ils ont vraiment écrit et dessiné donc, les compétences des non-lecteurs où eux, ils ont fait l'illustration. Voilà. Donc, j'ai apporté ce livre comme preuve que chaque enfant peut faire des choses très, très bien.
Et puis c'est un vrai roman, là. Enfin, les auditeurs ne le voient pas, c'est mais c'est un vrai roman.
Oui, absolument. Avec une intrigue policière et dans ce qu'ils ont vécu 3 semaines en imaginant un mystère.
Du coup, c'est plus fort que moi, là. J'ai envie de demander, quelqu'un nous en lit un extrait qu'on voit un petit peu l'écriture. Ah ouais, c'est plus fort que moi. Donc, nous sommes dans une émission qui parle. Non, mais nous sommes dans une émission qui parle de la lecture. Nous sommes dans une émission qui lit des extraits de romans. Du coup, j'aimerais bien avoir une petite lecture. Non, je sais pas, à moins que ce soit.
Après, on peut.
Amélie. Ouais.
Du coup, je.
Ouais, ça va être au hasard, la pauvre. Ça va être assez au hasard.
Ce sera l'extrait le plus pertinent.
Et parce que souvent, ils sont choisis quand même les extraits cette fois-ci.
C'est ça. Pas du tout. Non, pas du tout. J'ouvre le livre, page 95.
Donc c'est écrit par 28 enfants de CM2 de alors l'année 1998.
D'accord.
Ils se reconnaîtront.
Alors, Gare de Lyon. Gare de Lyon, 20h30, samedi 6 mars. Le train numéro 349 en direction de Chamonix part dans 2 minutes sur le quai numéro 10. Vite, vite les enfants, c'est notre train. Prenez tous vos bagages, dit Monsieur Moloch à ses élèves. En effet, la place de Lillibois part en classe de neige ce soir. Carlos, tout excité, prend sa valise, passe devant tout le monde et crie « Super ! Nous allons enfin monter dans le train !» Au contraire, Linda, un peu triste, marche tout doucement, mais sa copine Stéphanie lui chuchote « Ne t'inquiète pas, nous allons bien nous amuser à Chamonix !» Monsieur Moloch compte ses 28 élèves avant de monter dans le train. 25, 26, 27, où est le 28e ? Très inquiet, il recompte. Et tout à coup, le 28e apparaît tranquillement sur le quai. C'est Xavier, encore dans les nuages. Voilà pour le petit extrait.
Merci. Donc, on rappelle un livre écrit CE2, CM1, CM2. Non.
Oui, CM2.
CM2. Et avec des enfants sans aucun super pouvoir préalable. C'est juste du travail et de l'encadrement qui a amené à l'écriture de ce roman. Et du temps, et du j'imagine. Temps. Il est encore retrouvable, ce roman?
Non, c'est vous qui avez le dernier. À la bibliothèque de l'école de Breteuil-sur-Iton.
Très bien. Ah bah, la bibliothèque de l'école de Breteuil-sur-Iton. Très bien, là, c'est noté. On repart en musique?
En musique.
C'est ça? Et celle-ci, bah, elle est pour toi, Pauline.
Merci.
Only makes it worse. Tell him honestly, simply, kindly, but firmly
Don't make a big production. Don't make up an elaborate story. This will help you avoid a big tear-jerking scene. If you want to date other people, say so. Be prepared for the boy to feel hurt and rejected. Even if you've gone together for only a short time and haven't been too serious, there's still a feeling of rejection when someone says she prefers a company of others to your exclusive company. But if you're honest and direct and avoid making a flowery emotional speech when you break the news, the boy will respect you for your frankness, and honestly, he'll appreciate the kind, straightforward manner in which you told him your decision. Unless he's a real jerk or a crybaby, you'll remain friends. Catch the biggest fish in your pond, you have to be as attractive as possible. Make sure to keep your hair spotless and clean. Wash it at least every 2 weeks. Once every 2 weeks. And if you see Johnny Football Hero in the hall, tell him he played a great game. Tell him you liked his article in the newspaper.
I'm the party star. I'm popular. I got my own car. I'm popular. I'll never get caught. I'm popular.
I propose we support a 1 month limit on going steady. I think it would keep people more able to deal with weird situations and get to know more people. I think if you're ready to go out with Johnny, now's the time to tell him about your 1 month limit. He won't mind, he'll appreciate your fresh look on dating. And once you've dated someone else, you can date him again. I'm sure he'll like it, everyone will appreciate it. You're so novel, what a good idea. You can keep your time to yourself, you don't need date insurance. You can go out with whoever you want to. Every boy in the whole world can be yours if you'll just listen to my plan. The teenage guide to popularity.
I'm head of the class. I'm popular. I'm quarterback. I'm popular. My mom says I'm a catch. I'm popular. I'm never last pick. I'm a cheerleading chick. I'm the party star.
Vous venez d'écouter Nada Surf et le génial Popular. Et tout de suite, nous revenons à Sandrine qui va vous présenter un nouveau roman.
Donc pour continuer avec les enseignants, je vais vous présenter Les Attachants de Rachel Korenblit. Nous allons suivre une année du quotidien d'une jeune enseignante de primaire, elle s'appelle Emma. Débutante, elle a été nommée dans un quartier défavorisé où elle est confrontée à des enfants en grande difficulté scolaire, affective et sociale. Elle va s'attacher notamment à Ryan, un garçon dont on va progressivement découvrir la maltraitance. Mais elle nous parle de chacun d'eux avec toute l'importance qu'ils méritent. Elle va également découvrir la difficulté de connaître leurs problèmes sans pouvoir toujours intervenir, ce qui n'est pas toujours facile. Un très beau roman inspiré malheureusement de faits réels qui nous fait aimer ses élèves si attachants, comme elle le dit. Je vais vous lire deux extraits. Donc le premier, Caro, si tu m'écoutes, c'est pour toi.
Ça y est, on est dans les dédicaces personnelles.
Oui, tout à fait. Je l'ai prévenue, j'espère qu'elle écoute. Le lundi, la première école se trouvait sur les coteaux et quand le vent soufflait, les gosses s'envolaient presque. C'était des petites sections, des minus qui se mouchaient sur ses jambes du mois de septembre, les premiers rhumes, au mois de juin, les allergies. Et personne n'imagine ce que le nez d'un gamin de 3 ans peut abriter une telle réserve, inépuisable, qui colle aux vêtements, une couche épaisse que rien n'efface. Un nid à microbes potentiellement mortel pour celui qui n'a pas fait son immunité. Elle a vite pris l'habitude de ne plus céder aux caprices de la mode. En maternelle, elle ne quittait pas son tablier qui ressemblait fort à une blouse grise d'un style des années 20. En cadeau de bienvenue, elle a eu droit à toutes les épidémies, grippe, gastro, varicelle. Et même une chose sans nom, 6 jours de fièvre, une extinction de voix, une tension à 9, l'envie de se jeter du haut d'un pont pour faire cesser la fatigue. Le parcours classique du débutant. La maîtresse qu'elle remplaçait sur un jour, Madame Andrea, était directrice d'école.
presque une petite vieille rabougrie, pas trop loin de la retraite, mais qui avait du mal à lâcher l'affaire. Son bureau était juste de l'autre côté du couloir, et dès qu'elle entendait un gamin pleurer ou parler un peu fort, elle rappliquait dans la classe, inquiète. Elle rassurait la foule et lançait un regard terrible à Emma qui signifiait « Moi, je sais y faire, jeune fille. Ne viens pas te mesurer à moi. » À la fin de l'année, certains des gamins faisaient exprès de couiner pour voir en combien de temps l'autre maîtresse allait débarquer. Ce n'est pas parce que c'est gentil. À 3 ans, on peut être pas mal vicieux. Très peu de collègues connaissaient son prénom, en fait. Elle était la remplaçante, celle qui vient le lundi, qui a l'air encore jeune et subit l'épreuve du feu. L'ATSEM, l'assistante payée par la mairie, qui était censée l'aider toute la journée, quittait la classe vers 10h, le matin, pour aller discuter avec les filles de la cantine, histoire de lui faire comprendre que sa position ne lui permettait pas d'exiger une présence en continu. Emma n'a jamais rien dit. Une sorte de silence stoïque. Elle a laissé faire. L'ATSEM pouvait sortir de la classe en pleine activité, coupage, collage, coloriage, alors que les papiers voltigeaient partout et que les ciseaux à bourron pouvaient se révéler être des armes d'attaque très élaborées. Elle ne faisait aucune remarque. L'autre a fini par se lasser de ce jeu. Elle n'a plus quitté la sable. Une grande victoire pour Emma. À la fin de l'année, elles se sont serrées la main, un geste de soldats qui ont partagé la même tranchée. Voilà pour le premier extrait. Un petit deuxième. Les vacances, comme on en sort. Les vacances portaient bien leur nom. C'est ce qu'Emma essayait d'expliquer à Mathieu au début de leur relation. Il subodorait un métier aisé, des paresseux de fonctionnaires, de tirs au flanc payés à ne rien faire, beaucoup de temps libre. Toutes ces vacances, nombreuses, étalées, injustement accordées. Mais ces vacances étant vite sans trop plein qu'imposait la classe, cette entité carnivore qui ne pouvait accepter le silence, l'immobilité, la sérénité étaient essentielles. Elle se sentait vidée, presque triste les premiers jours, désemparée comme si l'essentiel de sa vie se tenait entre les 4 murs de sa classe et que le reste n'était qu'une pause, un sursis. On pourrait croire que les élèves sont heureux quand l'école cesse, et en général c'est vrai. Toutes ces mythologies sur la fin des cours, les cris de joie des mômes, les cahiers au feu et les mettre au milieu. Ils sont délivrés certes, ils n'auront plus à se lever tôt le matin. Pas de travail, plus de devoirs, le retour à l'anarchie. Mais pas aux acacias, surtout pas aux acacias. Parce que aller à l'école, pour une bonne partie de ses enfants, c'est mieux que de rester à la maison. Et comme ce roman n'est pas un thriller, je me permets de lire les toutes dernières phrases qui pourront vous donner envie de le lire. Que vous soyez un site ou pas. Ne pas s'attacher aux gens, simplement les aimer, les supporter, les accompagner et les laisser partir.
C'est joli.
Donc Rachel Cohen-Bitt a été enseignante en primaire, puis formatrice d'enseignants pendant 18 ans. Donc elle s'est inspirée de son expérience professionnelle pour écrire ce roman que je vous conseille.
Ce n'est pas parce que je suis retournée que je ne vous entends pas et j'ai des yeux dans le dos.
Et c'est maintenant à mon tour de vous présenter un dernier livre. Alors c'est une BD jeunesse qui s'appelle Super. Super avec un S à la fin. Et ben, je vais commencer par le commencement et vous parler du premier tome qui s'appelle « Une toute petite étoile juste en dessous de Tsi ». Donc Matt fait son premier jour au collège. C'est le petit nouveau qui débarque en plein milieu de l'année. Et pour l'avoir vécu, je peux vous dire que c'est pas facile. Tous les collégiens se connaissent déjà. Les profs ne veulent pas perdre leur temps pour lui faire rattraper les cours et les pions le jugent trop vite. Heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Et ils rencontrent notamment Lou et Jeanne. Ah, Jeanne. Matt se lie très vite d'amitié avec Jeanne. À la fin de la journée, Matt va retrouver Lily et Benji, son frère et sa sœur, à l'école primaire. Et ils rentrent ensemble à la maison. Mais il n'y a personne à la maison pour les attendre, pas de parents. Et leur maison semble d'ailleurs abandonnée. En effet, leurs parents les ont envoyés sur Terre, juste pour échapper à un danger, donc pour leur sauver la vie. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, Matt, Lily et Benji sont des extraterrestres. Donc, ce sont des extraterrestres, mais à l'apparence humaine, seule leur chevelure rouge les démarque des autres. Et comme tout extraterrestre qui se respecte, ils ont évidemment des super-pouvoirs. Ils peuvent voler, Lily peut lire dans les pensées, manipuler les esprits.
Et Benji a une super force, qui est d'ailleurs super rigolo parce qu'il est super petit.
Donc, si on dit super pouvoir, on peut dire aussi super héros ?
Alors, au début, non. Parce que ils doivent se protéger, et les gens ne doivent pas découvrir qui ils sont et ce qu'ils peuvent faire. Et Matt, en tant que grand frère, s'inquiète beaucoup pour Benji et Lily. Et c'est lui qui les oblige à être plus prudents et à trouver, et c'est lui qui trouve des excuses pour justifier l'absence des parents. Et d'ailleurs, sur cette thématique-là, le livre est empreint de mélancolie. Alors, c'est pas facile de vous lire un extrait de BD, encore moins à la radio. Mais je vais essayer de vous en décrire plusieurs planches. Enfin, une planche, notamment, de 10 cases muettes. Alors, au départ, Matt et Benji se retrouvent dans un parc, et ils se chamaillent, un parc de la ville. Ils sont rejoints par leur sœur, Lily, qui apporte des cookies faits maison par la maman de Jeanne. Et ils l'écoutent, ils sont fort bons. Un peu plus loin, ils voient un petit garçon qui se blesse en jouant et est réconforté par sa maman. Et là, dans la dernière case, Benji, donc le plus jeune des trois, dit « Ça doit être bien d'avoir sa maman, hein ?» Donc c'est un extrait qui montre bien toute la mélancolie de cette très belle BD. Mais pour en revenir au super pouvoir, Amélie, t'as raison, au bout d'un moment, ils vont évidemment les utiliser pour sauver des gens, mais je vous en dirai pas plus.
Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un comics à la française ?
Alors, pas tout à fait, parce que déjà, les comics de super-héros s'adressent pas au même public. C'est plutôt pour des grands adolescents et des adultes. Alors que là, super, c'est plus pour des 8-10 ans. Outre l'aspect super-pouvoir, qui évidemment est important, il n'y a pas que ça. Ça aborde aussi les thèmes de la différence, de l'intégration, de l'absence des parents, du poids du secret. Et pour moi, ce qui est le plus important dans cette BD, c'est avant tout les relations entre les trois frères et sœurs, et également entre Matt et ses nouveaux amis.
Tu as dit au début que c'était un premier tome, il y en a combien ?
Pour l'instant, il y en a 4. Alors au départ, il était prévu que le 4e soit le dernier, mais j'ai l'impression que face au succès, ils vont aller plus loin que ça. Info à vérifier, mais j'ai quand même bien l'impression. Cette BD est éditée chez une petite maison d'édition, les éditions de La Gouttière, qui est pas très connue. Alors vous allez peut-être dire que je fais du prosélytisme, mais c'est une maison d'édition amiennoise, en Picardie, pardon, dans les Hauts-de-France. Et je viens d'Amiens, et c'est là où j'étais avant Verneuil. Mais si ce qu'ils proposaient était tout pourri, bah, je vous en parlerai tout simplement pas. Mais là, c'est génial. Ils ont à leur catalogue une cinquantaine de titres, dont vous connaissez peut-être les Anuki. C'est une série de BD muette pour les tout-petits.
Avec un graphisme qui est vraiment superbe. C'est un petit indien, c'est ça ?
C'est ça, c'est un petit indien. Il lui arrive toujours plein de choses. Et donc, c'est pour les plus jeunes parce qu'il n'y a absolument pas de dialogue. Donc, c'est à eux, à travers toutes les cases, de s'imaginer ce qui se passe et de se faire l'histoire. Donc Frédéric Maupomé, qui est le scénariste de Super, travaille également sur les Anouki. Quant à Dawid, il est le dessinateur, de Philippine Lomar et ses enquêtes polars, et de la magnifique BD également muette Passe-Passe, qui traite du sujet de la mort de manière subtile et tout à fait poétique, et que je vous conseille pour ce thème. You up in boom, boom, balouche, boom, 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 me, I'm the only one that you know, life could be a dream. Et voilà, on est reparti pour une nouvelle année scolaire, en espérant que l'on vous a donné envie de découvrir ces livres et DVD. Sur cette période difficile à passer, qui est celle du retour à la vie réelle après les vacances. Prêtes pour cette nouvelle année scolaire, les filles ?
Oui !
Alors, pour débuter cette année scolaire, on fait fort, on se retrouve dès dimanche pour une émission exceptionnelle sur le Salon du Livre de Verneuil.
À qui on invite d'ailleurs les auditeurs à nous rejoindre pour de vrai.
D'accord.
En chair et en os
et histoire de rencontrer les livres et les auteurs.
Mais on ne pourra pas toucher.
Les auteurs ou les livres ?
C'est très perturbant ce que tu dis, Sandrine. Parce qu'en effet, il y aura les auteurs qui viendront, on pourra les interviewer. Donc ce sera dimanche 23 après-midi. Qui sera là autour de la table ?
Moi.
Moi.
Sandrine, oh,
l'appel est terrible.
L'appel est terrible. Dis-moi, c'est qui? Parce que alors, les voix vont pas forcément être parlantes.
Sandrine Abourt.
Anne-Marie, tu seras là?
Oui,
Anne-Marie sera là. Alors pour moi, Pauline de Verneuil, je ne pourrai pas parce qu'il y a un atelier à la même heure à la médiathèque de Verneuil.
Sur lequel on invite aussi les auditeurs
tout
à s'inscrire peut-être en amont.
Les auditeurs de 3 à 6 ans. C'est pour créer des carillons.
Super. Il faut s'inscrire en amont?
Tout à fait. Vous pouvez passer à la médiathèque de Verneuil ou appeler pour inscrire votre enfant.
Tu peux nous rappeler le numéro?
Absolument pas, parce que je ne le connais pas par cœur.
Oups.
Mais vous le trouverez facilement sur Internet.
C'est bien cette fin d'émission où chacun s'envoie un piège et un autre.
Merci Sandrine.
Merci le direct.
C'est chausse, trappe et croque en jambe pour la fin.
La prochaine fois, la troisième sera la bonne.
Et la troisième, ce sera donc en octobre sur la thématique, ce sera la maladie. Alors ne courez pas, ce sera pas plombant du tout. Merci à toutes. My whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart.